Si vous voulez bien, nous allons passer au séminaire. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jean-Claire, qui avait beaucoup de titres pour venir nous parler, et je dirais aussi bien en ce qui concerne le titre du cours, Écrire la vie, que le titre du séminaire, Témoigner. Jean-Claire a donc eu une carrière de conservateur du patrimoine et il a été longtemps le conservateur du musée d'art moderne au Centre Pompidou, l'organisateur de beaucoup d'importantes expositions que nous avons eu le plaisir de voir au Centre Pompidou dans les années 1980. Et ensuite, il a été le directeur du musée Picasso, où, là aussi, nous avons vu un certain nombre de belles expositions jusqu'à 2005, tandis qu'il en était le directeur. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont également vu la remarquable exposition qui a eu lieu il y a quelques années au Grand Palais, sur la mélancolie, exposition qui a eu beaucoup de succès en 2005, je crois. Jean-Claire est l'auteur de nombreux livres. Le premier que j'ai lu, c'était ses Considérations sur l'état des beaux-arts, publié en 1983, livre dont on avait beaucoup parlé, qui avait un certain bruit à l'époque. La raison pour laquelle je vous ai invité, c'est le livre qui est intitulé « La barbarie ordinaire ». C'est à ça que j'avais pensé en vous invitant. « La barbarie ordinaire, musique à Dachau », publié en 2001 chez Gallimard, et qui est un livre sur ce peintre slovène, Zoran Music, qui était encore vivant à l'époque, qui est mort depuis, et qui est l'auteur d'une œuvre sur le... Enfin, qui a été à Dachau, dans les camps de concentration, en 1944-1945, et dont l'œuvre a porté sur les camps de concentration beaucoup plus tard dans sa carrière de peintre, carrière qui a été donc longue, puisqu'il était né en 1909 et qu'il est mort en 2005, et carrière durant laquelle il vivait à Venise, beaucoup d'entre nous l'ont vu. Et c'est cette œuvre qui s'appelle « Nous ne sommes pas les derniers », c'est à ça que je pensais en vous invitant. Mais il y a évidemment beaucoup d'autres raisons qui justifiaient votre présence, et tout à l'heure, en arrivant au collège, j'ai trouvé le livre que vous venez d'y déposer, qui s'appelle « La tourterelle et le chat-huant », publié dans la collection « L'un et l'autre » chez Gallimard, qui est un livre autobiographique, me semble-t-il.
Épisodique.
Comment ?
Épisodique.
Épisodique et autobiographique. Journal 2007-2008. Alors, comme je ne l'ai pas encore lu, je ne peux pas vous en dire grand-chose, sinon que je comprends qu'il met en scène les deux pays, l'un et l'autre, c'est le pays maternel et le pays paternel, dans ce cas, sont les deux pays. Et vous venez aussi de publier un livre qui s'appelle « Autoportrait au visage absent ». Donc vous avez réfléchi à l'autoportrait, au journal. Vous avez également écrit un certain nombre de monographies, donc il y a cette dimension de la biographie. Enfin, je voudrais rappeler que vous venez d'être élu à l'Académie française et que nous aurons le plaisir d'entendre bientôt votre discours de réception. Le titre que vous nous avez donné aujourd'hui est « L'art, témoin ou complice de l'immonde, l'aporie des avant-gardes ». À vous.
Je vous suis très reconnaissant de ces paroles, un peu embarrassé aussi parce que il m'est apparu, de votre invitation, si généreuse, parce qu'il m'est apparu assez vite, malheureusement un peu tard, que peut-être ce que j'allais vous proposer n'entrait pas directement dans le thème de ce cours et de ce séminaire. Je me suis d'abord permis de changer l'intitulé et de réduire en quelque sorte. Et le nouvel intitulé, ce serait donc « De Satan à Staline, une promenade, un vagabondage plutôt, à travers les avatars de la figure du géant des Lumières à nos jours ». Il m'a semblé effectivement que c'était peut-être un peu difficile de rattacher un thème aussi ambitieux et aussi vagabond au thème de la subjectivité, au thème des journaux intimes, au thème de la sensibilité blessée d'un individu, qu'il fût Montaigne, Stendhal ou Proust. Et puis, à la réflexion, pour me calmer, je me suis dit, mais après tout, c'est un travail en cours, et un travail en cours, dans sa liberté, dans son errance, dans ses errements, en faire partager l'aventure à un public, comme un lectorat, c'est de l'ordre de l'intime. Donc, et par ailleurs, je pense que parmi tous les arts, la peinture, plus que la littérature, je crois, plus que la musique, est un art du témoignage. Quel art peut témoigner plus fortement, s'il s'agit de témoigner, que celui qui a la possibilité de nous présenter des images en un certain ordre, des couleurs et des formes en un certain ordre assemblées, étant entendu que cet assemblage de couleurs et de formes a un sens. Et c'est bien là où le bât blesse, si je puis dire, c'est que la peinture moderne et contemporaine n'a plus aucun sens. Elle n'est plus qu'un assemblage de couleurs et de formes, même si l'ordonnance existe encore. Et les images que je vais vous montrer, les tableaux que je vais faire défiler devant vous, appartiennent à une époque qui fut peut-être la dernière époque dans l'art d'Occident, à vouloir encore témoigner, c'est-à-dire à vouloir rendre témoignage par l'image d'une certaine réalité vécue. Je pensais à Panofsky, qui fut certainement un des plus grands historiens d'art de notre époque, un des plus grands philosophes aussi de notre époque, qui disait que la méthode iconologique qu'il avait si brillamment inventée et illustrée s'arrêtait, malheureusement, disait-il, à l'aube du XXe siècle, parce que la peinture, à l'aube du XXe siècle, cesse d'utiliser le vocabulaire, enfin l'immense répertoire des motifs, des figures, des symboles, des allégories qui ont constitué le patrimoine visible de notre culture. Je ne le crois pas, je crois que ça a continué encore, sans doute jusqu'à aujourd'hui, mais le déchiffrement iconographique des tableaux aujourd'hui est devenu infiniment plus complexe et ce que je vais vous montrer au fond dans les années 30 reste encore le seul patrimoine encore à peu près déchiffrable témoignant de notre temps. Et si vous voulez, pour aller dans la continuité de ce que disait Henri Raksimov la semaine dernière, je vous présenterai comme première œuvre cette peinture de Georges Grosz, peintre allemand du mouvement de la nouvelle objectivité, qu'il peint en 1944, à un moment où il est réfugié aux États-Unis. Il a quitté l'Allemagne en 1932, avant la catastrophe, avant d'être déclaré lui-même artiste dégénéré. Et il peint en 1944 donc cet Hitler aux enfers à New York. Peinture qui est remarquable à plus d'un titre. D'une part, d'abord, essentiellement parce qu'à un moment où déjà toute la peinture européenne s'oriente vers une abstraction qui lui est imposée par l'Amérique, qui est déjà en plein dans les voies d'une peinture non figurative, et aussi peut-être en réaction contre ce qu'une peinture réaliste, qu'elle fût d'inspiration soviétique ou qu'elle fût d'inspiration national-socialiste, avait elle imposé en Europe, par réaction contre cette figuration idéologique, eh bien, Grosz lui-même, imperturbablement, en 1944, continue de faire appel aux ressources, aux ressorts de l'allégorie et du symbole, si j'ose dire, sans aucune pudeur. Trois motifs s'entremêlent ici. Un personnage historique, Hitler, qui est vu comme un géant, nous y sommes tout de suite, assis, prostré, dans la posture typique du mélancolique accablé, sur le rebord d'un ravin, d'une fosse, dans laquelle s'entassent des milliers de squelettes. Dans le fond, vous avez des villes en train de brûler, et à droite, vous avez un motif mythique, deux corps allongés, qui figurent le meurtre d'Abel par son frère Caïn. Donc, une référence biblique, l'histoire de l'humanité commence par un crime familial, l'histoire tout court, l'homme a étendu ce crime au genre humain. Hitler est peint sous l'apparence du tyran mélancolique assis au milieu des humains qui souffrent. Et là, le motif est une reprise, là aussi, d'un thème ancien, celui du Satan aux enfers, bien connu de la tradition picturale médiévale, en particulier au Campo Santo de Pise, comme ici, où vous avez la figure du Satan, un géant au fond de son enfer, nos dernières, au fond de son, en train de dévorer quelques-uns des petits damnés qui passent à sa portée et qui recrachent les os de leur squelette. La même année, 1944, où Gross peint Hitler aux enfers, allégorie, un autre peintre, donc Zoran Mozic, en effet, qui évoquait Antoine Compagnon tout à l'heure, dessine au camp de Dachau où il est interné et au péril de sa vie, parce qu'il s'il avait été pris, il aurait été pendu, ce qu'il voit, c'est-à-dire des monceaux de cadavres entassés les uns sur les autres, comme dans le tableau de Gross. 1945, c'est au moment de la libération du camp. Mais il faudra 30 ans par la suite pour qu'il fasse de ces dessins faits sur le vif, si j'ose dire, le matériau dans lequel puiser pour alimenter son œuvre postérieure. Et c'est en 1972, en effet, qu'il reprendra ces figures du camp de Dachau sous le titre générique de « Nous ne sommes pas les derniers ». Ici, donc, c'est une peinture de 1973. Quant au thème du géant destructeur, il est aussi assez fréquent dans la peinture germanique, dégénérée, entre guillemets, interdite, de ces années-là. Par exemple, chez un autre représentant de la peinture de la nouvelle objectivité allemande, qui est Rudolf Schlichter, dans cette figure, non pas prostrée cette fois-ci, mais dressée, qui s'avance elle aussi vers un précipice, avec des villes qui brûlent dans le lointain, et que Schlichter a intitulé « Puissance aveugle » qui prophétise le désastre. Autrement dit, trois aspects de l'art comme témoin de son temps, de la peinture comme témoin de son temps, la description naturaliste, presque zoologique, la dénonciation politique, mais aussi la prophétie quasiment religieuse. Quelques mots sur les géants, avant d'aller plus loin. Les géants sont nés de la terre, comme l'indique l'étymologie de leur nom, Gegenheis, engendrés par Gaïa. Ils sont fils de la terre et d'Uranos, le ciel. Ce sont des entités primordiales, puissantes, gardant parfois de leur origine des traits animaux, primitifs, une chevelure hirsute, un seul œil, ou encore des bras multiples, des membres inférieurs en forme de serpent. Parmi eux, il y a les titans, les cyclopes, les sans-bras. Et ce qui les réunit dans leur diversité, c'est leur haine commune des dieux qu'ils affrontent dans ce qu'on appelle, vous le savez, des gigantomachies. C'est Zeus qui en viendra à bout et qui les emprisonnera dans le Tartare, déjà au fond des enfers. Ce que je veux dire, c'est que là où les Olympiens incarnent le plus souvent la mesure et la raison, et en cela sont proches des humains, les géants, eux, incarnent la démesure et la violence, une représentation de l'horrible, du Deinos ou de l'hubris, de la démesure. Ils sont une figure originelle, terrible, de la puissance première, toujours prête à ressurgir, lorsqu'ils échappent au Tartare où ils sont enfermés et que les dieux ne les contrôlent plus. La culture chrétienne semble n'avoir connu du géant que ses formes les plus paisible, bienveillante et protectrice. Je vous rappelle que le Moyen Âge avait ainsi imaginé que toute époque à venir serait celle d'une procession de petits hommes qui, auraient l'obligation de se jucher sur les épaules des géants qui les avaient précédés. C'est Bernard de Chartres au XIIIe siècle qui avait créé cette image saisissante et qui s'imposera longtemps de ces nani gigantum humeris incidentes, de ces petits nains juchés sur les épaules des géants et qu'on retrouve sur les vitraux de Chartres. Les quatre évangélistes perchés sur les épaules des prophètes de l'Ancienne Alliance. Autrement dit, cette image où les anciens sont des géants et les modernes sont des nains illustre un rapport au passé profane ou religieux qui a dominé notre culture pendant des siècles. La perfection est derrière nous. L'histoire des petits hommes serait une lente décadence par rapport à la vérité première, primitive des géants. En même temps, cependant, d'autres figures de géants surgissent qui n'ont plus la bienveillance des prophètes, mais qui cachent une inquiétante ambivalence. Par exemple, la figure, a priori, rassurante, protectrice de saint Christophe, mais dont l'origine, je pourrais vous en montrer des dizaines et des dizaines d'exemples, mais qui semble dériver d'un prototype oriental né au Ve siècle, où le Christophe en question apparaît comme une espèce de saint cynocéphale. Cette caractéristique physique de l'homme à tête de chien est soulignée du fait qu'il est privé de la parole, il ne parle pas. Autrement dit, c'est un barbare, c'est un être qui vit aux frontières du monde civilisé et du monde, on dirait en italien selvatico, du monde sauvage, du monde de la forêt. Autant de traits qui nous rapprochent de ces créatures fantastiques qu'avaient été les lycanthropes dans l'Antiquité, c'est-à-dire des hommes loups, qui reviendront dans la culture populaire sous l'aspect des loups-garous qui sortent du bois, de la forêt sauvage, sombre, profonde, pour croquer les enfants dans la clairière et pas seulement pour porter les enfants au-dessus des précipices. Donc la puissance paternelle rassurante qui les habite est réversible. Elle peut devenir aussi la puissance d'un démon cannibale. Tout aussi étrange, encore une fois, là, ce sont des choses que je suis... À la fin du XVe, dans les cours lettrés de l'Italie du Nord, est l'apparition de la figure du fou. Là, je vous montre le fou extrait du fameux tarot dit de Charles VI, qui est à nouveau un personnage de géant, coiffé du chapeau à pointe et à oreilles d'âne, et son cou orné de grelots. L'effigie fut diffusée par la nef des fous de Sébastien Brandt. Car ce fou-là, à l'inverse de Christophe, qui, en acquérant la parole, prend aussi l'apparence civilisée et entre dans le monde christianisé, le fou des jeux de cartes, lui, s'éloigne du monde civilisé pour être le fou qu'il est, c'est-à-dire aussi le mat de l'italien matto, et qui est une figure encore aujourd'hui très contemporaine, puisque le matto, le fou, le mat, c'est le Joker des films de Batman, dont la dernière incarnation a reçu d'ailleurs un grand prix au Festival du film de Los Angeles. Alors, cette carte du mat, n'est pas numérotée, et la valeur qu'elle a dans le jeu change selon la partie. Et cette variation de la valeur est caractéristique du côté varius de la folie, c'est-à-dire au sens où l'habit du fou est un habit vert, V-A-I-R, pas l'habit d'académicien. C'est l'habit varius, l'habit varié, comme est varié le psychisme du fou. Tout ce qui est chapeau, aux règles d'un monde civilisé, réglé numero et pondere, l'harmonie et le nombre. J'ai évoqué la figure de l'ogre. Le mot est sinon créé, du moins popularisé par Charles Perrault dans ses contes. L'ogre, comme Saint-Christophe, est une variante du père primitif, protecteur, du père archaïque, dont les anthropologues, les psychanalystes vont essayer de cerner les caractéristiques à la fin du XIXe siècle, le chef de la horde primitive, le protecteur, mais aussi le meurtrier, le nourricier, mais aussi l'anthropophage. Le nom même d'ogre viendrait du latin orcus, le dieu des enfers. Avançons, sinon on n'arrivera jamais au bout. C'est vers 1720-1730, pour faire un grand saut dans le temps, que la figure traditionnelle du géant devient une figure majeure de la pensée des Lumières. C'est évidemment le Gulliver de Swift en littérature, c'est aussi le Micromégas de Voltaire. Et 80 ans plus tard, en 1800, la peinture va en offrir une représentation peut-être la plus saisissante, avec le colosse de Goya, qui domine de sa masse le petit peuple des Terriens, et qui est clairement désigné comme un lunatique par le croissant qui domine sa tête. C'est une figure d'épouvante pour la masse des humains, c'est aussi une figure du déséquilibre spirituel ou mental pour l'individu. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce rapport des géants au passé, du passé, portant les nains que nous sommes dans le présent, s'est-il inversé, qui va voir dans l'idée du progrès le moteur des actions humaines et qui va faire du futur le modèle à suivre et du passé le souvenir à détruire. C'est un retournement de perspective qui fera des hommes du passé des nains et des hommes du futur des géants. Il est de fait que dans la foulée des idéologies révolutionnaires, le géant n'est plus celui qui, comme saint Christophe, permet à l'enfant de traverser les eaux, ni le prophète haussant la vue des enfants que nous sommes, mais il va devenir une espèce d'ogre cannibale, celui qu'on va appeler si justement le petit père des peuples, qui ne les engraisse, les peuples, que pour mieux les dévorer, qui sont les facteurs d'une révolution qui, comme on le dira bientôt, dévore ses propres enfants. Pareil au Chronos, l'émasculateur des dieux anciens. Le géant n'est plus le grand ancien qui permettait à l'homme actuel de découvrir la vigueur de la tradition, mais il est la force brutale destinée à faire du passé table rase et à entraîner les hommes, devenus une masse d'homoncules, vers la catastrophe. Le XXe siècle, siècle des guerres totales, va aussi dresser la figure de ce que Octavio Paz, dans l'un de ses essais, avait nommé un jour l'ogre philanthropique. Le colosse de Goya est un avatar de son Saturne, comme vous le savez, dévorateur d'enfants, ogre et monstre, solitaire et assédiaque, comme son prototype médiéval, je vous ai montré tout à l'heure une apparence ou une apparition, Satan. Or, cette figure va connaître au XXe siècle une incroyable postérité. Elle est chargée d'ambiguïté. Elle prétend incarner, comme les géants swiftiens des Lumières, la puissance et la raison. En fait, elle va incarner très vite la folie meurtrière. Elle prétend désigner le dépassement de l'homme par l'homme. Elle en annonce, au contraire, l'anéantissement. Et tous les meneurs d'hommes, on va le voir, les dictateurs, les leaders, les duces, les führers, prendront volontiers l'apparence de géants, guidant les travailleurs vers la lumière, en réalité vers la ruine. Le changement de paradigme du géant bénéfique au géant maléfique est d'abord, si on tente de l'expliquer, un changement de paradigme, un changement de direction dans le cours des choses, donc de la marche de l'homme. À la Renaissance, maître et dominateur de la nature, l'homme en est aussi la mesure et l'élan, de Polyclète à Michel-Ange et de Vitruve à l'écorché de Houdon, dont je vous montre ici l'un des moulages. L'homme est la mesure du monde et il est mesuré par le monde. Microcosme, il est la mesure du cosmos, il est à sa mesure. Et ces mesures sont les proportions mêmes de son corps. La station droite chez les modernes devient cependant peu à peu le signe d'une domination. C'est le pouvoir de regarder de haut le reste de la création. D'où est venue cette transformation ? Peut-être du moment où le regard cosmologique vers le haut s'est associé à un regard historiciste et progressiste vers l'avant. C'est l'histoire, en effet, à laquelle on attribue désormais un sens qui va orienter la marche de l'homme, et cette marche, qui va bientôt devenir une marche forcée, viendra d'abord contrarier, puis finalement détruire le regard humain qui se tournait vers le haut. Trotsky décrira le surhomme soviétique comme un homme moyen qui atteindra la taille d'un Goethe ou d'un Marx, et au-dessus de ses hauteurs s'élèveront de nouveaux sommets. Maxime Gorki annoncera le premier plan quinquennal avec le slogan « En avant et plus haut ». Et je pourrais vous citer des milliers d'autres exemples, y compris les chansons populaires de la Hitlerjugend ou des Balila fascistes. C'est toujours la même image qui revient. Les nus héroïques et surdimensionnés d'Arno Breker dans les années 30 ne gardent rien en eux de la mesure et de la plénitude de l'écorché de Houdon deux siècles auparavant. Mais l'écorché tirait sa plénitude du fait que, même étant écorché, il demeurait plein, harmonieux, mesuré, réglé, comme la figure d'un Saint-Barthélemy qui présente à bout de bras la peau de son martyr. Le nu de Breker, supposé incarner l'homme nouveau, n'est pas un écorché, c'est à l'inverse une parfaite surface lissée. Et cette surface n'est plus qu'une peau sans intérieur, une pellicule creuse, vide de tout contenu. Et cette enveloppe vide, cette variation sur l'homo bulla médiéval, illustre parfaitement l'inquiétante étrangeté de l'esthétique des régimes totalitaires habités par le souvenir des titans. L'image qui inaugure à cet égard les temps modernes, c'est qui nous fait basculer dans la démesure, dans l'impossibilité de trouver une mesure commune à l'homme et au monde, un rapport mesurable, pourrait être celle qu'imaginait Swift dans les Voyages de Gulliver et que Granville a représenté pareil à Atlante portant le monde. Mais plutôt que poser un problème métaphysique, le géant imaginé par Swift n'est encore qu'une fiction destinée à poser une question d'ordre moral et politique liée aux Lumières. La taille d'un être est relative, dit Swift, au système de coordonnées dans lequel il s'inscrit. Les philosophes ont raison de nous dire que rien n'est grand ni petit que par comparaison. Ce qui veut dire que nous sommes entrés subrepticement dans le règne du relativisme, des mœurs, des idées, des cultures même. La chose importante est celle que note Swift débarqué à Lilliput. La taille ordinaire des gens du pays est un peu au-dessous de 6 pouces. Tous les autres animaux, aussi bien que les plantes et les arbres, sont à l'égard des hommes dans la même proportion qu'on observe entre ces objets et nous. Les chevaux, les bœufs, les moutons, les oies, les insectes, les puces d'un monde lointain se distribuent selon des proportions identiques à celles que l'on mesure sur notre planète. C'est la présence incongrue, hors d'échelle pour le monde considéré, d'un Gulliver imposant un élément de mesure, un étalon de mesure différent, qui laisse supposer que nous sommes dans un univers différent du nôtre, et non pas dans le même monde, simplement observé à travers une longue vue, tantôt du bon et tantôt du mauvais côté. Je vais aller un peu vite, sinon on n'aura jamais fini à 6h30, surtout si nous devons peut-être échanger deux ou trois idées. On pourrait effectivement gloser longuement, interpréter longuement ces jeux à la fois mathématiques, physiques et biologiques sur la grandeur réelle ou apparente d'un individu, sur un monde considéré, sur une planète considérée, et le rapport que ces êtres qui peuvent apparaître comme des géants entretiennent, ou vont entretenir bientôt avec d'autres figures étrangement semblables qui parlent aussi de la résistance des matériaux, de la résistance physique d'un corps solide à la pesanteur, par exemple, et qui mèneront au développement de l'industrie dans la seconde moitié du XIXe siècle. Comme aussi, dans les illustrations pour Gulliver, certaines aventures qui arrivent à notre héros confronté à la présence d'animaux, confronté à la taille qui lui semble gigantesque du sein de sa nourrice. En tout cas, de cette vie des formes, oui, par exemple ici, c'est quand même intéressant de noter que lorsque Gulliver arrive à Brobdingnag, il est pris comme un jouet par un poupon. À qui la nourrice va donner la tétée. Et on ne sait trop ce qui l'effraie le plus, d'être avalé par le marmot ou de devoir contempler le spectacle qui lui est offert. Jamais objet plus révoltant, écrit-il, ne s'était offert à mes yeux, à ma vue. Je ne sais comment décrire ce sein monstrueux. Qu'on se figure qu'il avait 6 pieds de saillie et au moins 16 de circonférence. Le mamelon était gros comme la moitié de ma tête, et sa couleur et celle des alentours étaient nuancées par tant de taches et de boutons qu'il n'y avait rien de plus hideux. Les belles peaux de nos dames ne nous semblent-elles que parce qu'elles sont dans nos proportions. Et en effet, vu au microscope, les traits les plus frais, les plus unis, paraissent grossiers et mal colorés. L'expérience de Gulliver est vécue comme une expérience de physique amusante, de miroir déformant, si vous voulez, d'anamorphose, que la raison ramène à la compréhension, mais en même temps, elle ouvre la porte, peut-être, semble-t-il, à une expérience qui, chez les romantiques, bientôt va devenir une expérience existentielle, centrale, cruciale, l'expérience de l'énorme, l'expérience du monstrueux, l'expérience de l'effrayant, l'expérience de l'unique, l'expérience du hors-mesure, l'expérience la sensation de ce que l'on n'a encore jamais vu. À partir donc du dégoût, si vous voulez, éprouvé par le héros swiftien, il va en même temps y avoir une ouverture du spectre des sensations jusqu'à l'ignoble et jusqu'au grotesque, mais aussi on va le voir, la terreur. La diminution de la taille entraîne d'autres risques, en particulier d'être dévoré par qui est devenu plus gros que vous. Parmi les êtres vivants, règne non pas l'harmonie de la raison, mais les pulsions de l'anthropophagie. On va donc examiner les figures du géant qui sont nées de cette démesure romantique et comment elles ont évolué pour illustrer cette fois les révolutions politiques de notre propre époque. C'est sur Saturne, la planète, que l'habitant de Sirius de Voltaire se posait déjà. Mais le Saturne de Goya n'est pas un voyage dans l'espace, c'est un voyage dans le temps. Il s'agit du Saturne Chronos, le dieu des moissons et du temps, le père, archaïque, cannibale, celui qui dévore en effet ses propres enfants. Je vais avancer pour en arriver à notre époque. Ce géant de Goya, s'il est une figure de l'homme sauvage, n'est plus le bon sauvage de Bougainville, quand il croyait voir dans la Polynésie une nouvelle citerre. Ce n'est pas l'un de ces géants inquiétants par la taille, mais bonasse par l'intelligence et l'éducation que ces optimistes qui étaient Swift et Voltaire croisaient dans leur voyage imaginaire. Ce n'est plus l'homme de nature naturellement bon que Rousseau rêve de rencontrer ou de retrouver, éminemment solitaire, éminemment singulier, éminemment singulier, saturnien, c'est bien une figure du romantisme. Surgit avec lui l'image inaugurale et terrifiante de notre époque, entre romantisme et révolution, celle du Colosse, puis du Saturne, peint vers 1820 par Goya, et qui sont tous deux, vous le savez, déposés au Prado. Là, c'est une autre image du Colosse endormi dessiné par Goya, et puis qui rappelle étrangement, ou qui annonce, oui, aussi la figure du Gulliver allongé que les petits habitants de Lilliput essaient d'emprisonner de fil. La différence de taille n'est plus le prétexte à une réflexion ironique sur la sottise infiniment grande d'un humain infiniment petit. Elle devient une apparition brutale qui provoque la terreur, l'irruption de la violence infinie à l'origine même de la vie, et en fait le dieu anthropophage des guerres et des révolutions. Là, je recherche... La peinture du Saturne de Goya s'inscrit, vous le savez, dans la série des peintures noires qui ornait la Quinta del Sordo, où Goya s'est enfermé dans les dernières années de sa vie en voulant fuir du même coup les désastres de la guerre. La peinture elle-même est une figuration d'épouvante qui va traverser tout le siècle 19e et dans lequel il est difficile aussi de ne pas reconnaître souvent l'effroi provoqué par les troupes napoléoniennes dont il a si souvent décrit les horreurs. C'est en tout cas son Saturne, le premier géant du monde moderne, qui s'associe à l'idée de la destruction, à l'horreur des révolutions menées au nom des droits de l'homme. Dans la série des disparates, ce sont les soldats français qui fuient épouvantés, comme ici, par l'apparition géante d'un fantôme. Croque-mitaine, loup-garou, spectres de toutes sortes traversent ce monde où la raison en effet s'est endormie et dans lequel pullulent désormais les monstres. Le géant n'est plus ici l'épreuve de la raison, de la sagesse, de la mesure, mais il incarne la violence, la folie, la solitude, la marge, l'outcast, le Sonderling. La disparate, c'est aussi l'action capricieuse, déraisonnable, la sottise, l'extravagance. C'est aussi le phénomène d'apparier deux choses ou deux êtres, ou deux phénomènes qui n'ont aucun lien, aucune analogie, aucune affinité, comme s'ils appartenaient à deux mondes opposés. Là encore, d'autres gravures de Goya tirées de ces disparates, où s'entend encore le souvenir des massacres de la guerre napoléonienne. Tout l'art Tardot, symboliste, sera imprégné de ces figures géantes. C'est par exemple celle-ci, gravée par Klinger en 1888, d'un homme jeune et nu qui semble se protéger de l'attirance d'un précipice dans lequel des humains sont déjà tombés. Sur l'horizon, une ville en ruine et... dominant le tout, un colosse qui est assis, impassible, la main gauche posée sur un sablier et la main droite posée sur un volcan qui rappelle donc les origines, la mythologie du titan saturnien, de Cronos, conformément au mythe qui voulait que les géants fussent liés à l'activité du feu souterrain. Là encore, avec cette autre gravure de Klinger, on est à nouveau et toujours dans le souvenir des guerres napoléoniennes, avec la figure de Napoléon ici, ou comme ici dans cette gravure d'Alfred Kubin, où le grenadier mitré et gigantesque surgit par-delà l'horizon comme une apparition d'épouvante par-dessus les montagnes pour diriger un escadron de petits soldats, comme des soldats de plomb, et qui se souvient directement du colosse de Goya. En 1903, c'est toujours Kubin qui, dans ce dessin à l'encre intitulé « Anarchie », représente cette dernière comme une sorte de goule géante dominant petit monde vermiculant des humains. L'œuvre la plus saisissante que Kubin ait faite, c'est La guerre, Der Krieg, en 1912, un guerrier gigantesque, armé de sa hache, qui piétine tout sur son passage, qui se souvient de Goya et qui inspirera Schlichter que je vous ai montré tout à l'heure. L'intention se fait encore beaucoup plus directe et inspirée de l'actualité politique lorsque Kubin, qui était, je vous le rappelle, autrichien, qui grandit dans l'empire de la Kakhanie, en 1935, dessine à l'encre Staline sous la forme d'un géant, là encore, surgissant par-dessus la foule énorme des moscovites défilant sous les murs du Kremlin. Toute cette symbologie va se retrouver dans les années 30 pour accompagner la montée des révolutions, qu'elles fussent communistes, fascistes ou national-socialistes. En 1920, Boris Koustodiev, un des représentants majeurs de la peinture soviétique de l'entre-deux-guerres, peint cette œuvre, le Bolchevik, qui était exposée à l'exposition Mélancolie, d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui l'ont vu, sous la forme d'un géant qui domine les silhouettes du peuple prolétaire et qui brandit un drapeau rouge dont les plis se déroulent au-dessus de Moscou. Est-ce que c'est un commissaire du peuple montrant à ses camarades qui se pressent à ses pieds comme des Lilliputiens conduits par Gulliver la voix d'un lendemain radieux, ou est-ce plutôt un avatar inattendu du Saturne de Goya s'apprêtant à dévorer les fils de la Révolution rouge? Si on va à l'autre bord du spectre politique, en 1935, Mario Sironi, qui fut l'un des plus grands peintres italiens, peut-être le plus grand peintre italien des années 30, mais qui était aussi le peintre officiel du régime fasciste, mais sous une forme, vous pouvez le constater, singulièrement sombre et désespérée, dresse du Duce une image pour le moins ambiguë, une figure équestre colossale dominant la foule. L'homme à cheval est évidemment une figure obligée de la rhétorique fasciste qui ressuscite à la fois les images glorieuses de l'Empire romain, dont Mussolini est celui qui le fait ressusciter, et l'image évidemment du Colleone à la Renaissance. La seule chose étrange qui nous dérange beaucoup, c'est la démesure extrême du cheval et de son cavalier par rapport par rapport à la masse des humains. Pourtant, le même Sironi, à l'occasion, se laissera aller à des œuvres de propagande beaucoup plus brutales est galvaudé comme ce géant rouge qui s'élève au-dessus des édifices de Milan comme le colosse de Goya au-dessus de la plaine et qui symbolise non pas le bien de la révolution fasciste mais le mal de la révolution bolchevique sous la forme d'un colosse armé de sa hache. L'image la plus singulière que je vous ai déjà montrée, la plus frappante, est celle peut-être peinte par Schlichter, puissance aveugle, qu'il peint en 1937 comme une protestation avant la guerre de ce que la volonté de pouvoir du régime va imposer au peuple allemand. Schlichter avait été un membre du Parti communiste allemand avant la guerre. Il avait été l'un des principaux représentants de cette école de la nouvelle objectivité allemande. Il avait été interdit de peindre, évidemment, par le régime nazi. S'était réfugié pour continuer de peindre dans l'art du portrait, était entré dans le giron de l'Église, tout en entretenant par ailleurs une amitié avec un représentant majeur de la révolution conservatrice, qui était l'écrivain Ernst Jünger, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Le tableau semble se souvenir de la gravure de Klinger que je vous ai montrée tout à l'heure avec ses villes dévastées et en flammes et le précipice sur le devant. L'homme s'avance, armé d'une épée, à la droite du marteau de Thor, le dieu de la guerre, le dieu germanique de la guerre, coiffé d'un casque à l'antique, rappelant de façon ironique le goût de la peinture du Troisième Reich officiel pour la chevalerie médiévale et pour les cuirasses et les armures médiévales. Mais la cuirasse ici est ornée de figures monstrueuses qui, à bien les regarder, représentent les sept péchés capitaux. Elle se souvient encore, là aussi, d'une tradition de la gravure germanique, en particulier de Max Klinger, comme dans cette gravure de Klinger qui s'appelle « L'avenir » de 1880, ou encore « Le temps et la gloire » de 1892. Et évidemment, elle se souvient directement de la figure hallucinante de la guerre d'Alfred Kubin en 1912, un autre géant armé d'une hache gigantesque et qui s'avance vers cette petite armée de Lilliputiens qui dresse vers lui ses pointes comme des épingles. Du géant qui conduit les révolutions de notre temps, s'il fallait trouver l'origine, il faudrait aller la chercher avant les Lumières, dans la figure du Léviathan, imaginée par Hobbes en 1651. Selon le philosophe, dans l'état de nature, les hommes sont naturellement agressifs. L'état de nature que décrit Hobbes n'est pas en fait très éloigné de la horde primitive que j'évoquais tout à l'heure à propos du père archaïque. Seul donc un pouvoir politique absolu, auquel obéiront par un contrat social les individus, est en mesure d'apporter la paix et la sécurité. Le frontispice du Léviathan de Hobbes fut gravé par Abraham Bosse sous la forme d'un géant qui surgit à mi-corps de derrière un vaste paysage, une fois de plus, tenant l'épée du pouvoir civil et la crosse du pouvoir ecclésiastique, et dont le corps est composé de tous les visages, des milliers de visages, des têtes de ses sujets. Il semble annoncer évidemment le colosse de Goya, mais il annonce aussi un autre trait du totalitarisme moderne, qui est la dilution de l'individu, portrait individuel, dans la masse organique de l'État, la Volksgemeinschaft, comme dira le national-socialisme, l'unité du corps fondue dans l'organisme de l'État absolu. Comme un monstre marin surgi des profondeurs, le Léviathan figure un organisme primitif. L'État absolu est pareil, si vous voulez, à un polypier, à ces formes de vie qui ne sont que des agrégats indistincts et capables, si on les découpe, de faire repousser la partie détachée. Or, l'image sera régulièrement reprise dans l'imagerie des régimes totalitaires. Par exemple, je dis par exemple, parce qu'on pourrait en trouver bien d'autres, pour le référendum populaire de 1934, autrement dit, pour un nouveau contrat social entre le chef et le corps du peuple, entre la masse des individus et la puissance organisatrice du souverain, Mussolini est souvent représenté comme ici, dans les affiches de propagande, comme un géant dont le corps est constitué de la pullulation des têtes de ses sujets. Encore un autre exemple ici. De même, plus étonnant peut-être encore, en 1930, l'artiste soviétique productiviste Lissitsky avait risqué un photomontage de Lénine où la tête, le visage du dictateur est formé comme dans une anamorphose à la Archimboldo, des milliers de petits visages identiques des hommes soviétiques. J'ai avancé tout à l'heure l'image zoologique du polypier et de ses capacités de régénération, comme l'hydre qui repousse ses membres après qu'ils ont été coupés. Et partout dans les années 30, on va retrouver ces images de prolifération, de réplication de membres identiques à partir d'une matrice commune. Ici, par exemple, dans une photographie productiviste de 1930, de Clouchis, enfin, peu importe, la main levée du chef semble engendrer derrière elle autant de petites mains levées. Et ces photomontages évoquent curieusement d'autres images, d'autres photos que produit à ce moment-là la croissance de la photographie dite scientifique d'organismes végétaux ou animaux, où l'on essaie de saisir la croissance, la pullulation des cellules végétales ou organiques. Ici, une autre image, ce sont des soldats de l'armée rouge qui semblent se démultiplier comme les cellules identiques d'un même tissu. Ou ici encore les sportifs du stade Dynamo à Moscou qui se déploient et qui prolifèrent comme les organismes végétaux qu'à la même époque, la photographie scientifique, pour la première fois, commence à fixer sur la pellicule, coupe de racines ou autre. Autrement dit, on pourrait dire que la culture de l'homme nouveau dans le laboratoire des années 30 doit s'entendre comme, au sens propre, culture de cellules en laboratoire, pareil à la culture des grains en agriculture. La culture des individus par l'imposition du politique est ce qui forme le tissu, au sens physiologique du terme, de la société. D'un côté, des masses de travailleurs, des masses de soldats. De l'autre, des êtres singuliers, abîmés dans la solitude, impuissants à se raccrocher à une valeur qui ne soit pas édictée par le Léviathan. L'image la plus glaçante de ces années est peut-être celle au sommet du Palais des Soviets, projeté en 1937 par l'architecte Boris Yofan, d'une statue géante de Lénine, le bras droit levé, qui se serait dressée, et dans la version autorisée, elle aurait eu 80 mètres de haut, soit plus de 40 fois la hauteur d'un homme moyen, pris dans la foule dispersée, qu'on distingue à peine sur la diapositive, qu'on voit errer devant le parvis. La hauteur totale du bâtiment aurait été de 415 mètres. Hitler, en revanche, n'a pas laissé de lui des gigantographies. Il s'est toujours voulu le petit fantassin des tranchées de 14, qui demeure petit parmi ses petits camarades. Le gigantisme chez Hitler se mesurera plutôt aux proportions démesurées. Là encore, c'est une photomontage. D'un photographe constructiviste soviétique pour le plan quinquennal, illustrant le plan quinquennal, où Staline avance pour le 1er mai, entre la foule et le vol des avions. Je reviens à cette image de George Grosz pour terminer, réfugié aux États-Unis, de Hitler aux enfers. L'image semble aussi lui avoir été inspirée par une gravure faite par l'artiste allemand, c'est moins connu, donc c'est plus intéressant aussi que ce que je vous ai déjà montré, Paul Weber, en 1932, destiné à illustrer le livre du théoricien du national-bolchevisme qui a existé comme le national-socialisme, qui s'appelait Ernst Nikisch, Hitler, une fatalité allemande, qui montre une troupe innombrable de petits hommes, pareil là aussi à des fourmis processionnaires, qui vont toutes s'engloutir dans une fosse, au fond de laquelle repose un cercueil frappé de la svastika. Ces images de géants, je vous montre d'autres images qui illustraient l'ouvrage de Nikisch, Hitler, une fatalité allemande. Toutes des images, donc des vieux titans du mythe. Et Ernst Jünger, que j'évoquais tout à l'heure, fut un ami de Ernst Nikisch. Et dans son ouvrage, Le Travailleur, en 1934, il dessine en effet la figure mythique d'un homme nouveau, qui est celle d'un monde, d'un homme nouveau, oui, qui apparaît au seuil des années 30, et adapté à la nouvelle réalité, qui est celle d'un monde entièrement dominé par la technique. Ce qu'il appelle le travailleur, réveillé du sol souterrain, c'est la figure d'un titan. Ça n'est pas la simple incarnation du prolétariat sur lequel les totalitarismes de droite comme de gauche vont vouloir s'appuyer. Le travailleur, c'est la figure du mythe. L'âge des dieux est passé, dit-il, les dieux se sont éloignés, reprenons cela les mots de Hölderlin, et nous sommes entrés de nouveau dans l'âge des titans. Trois images encore, ou quatre images, en 1938, une peinture de Magnus Zeller, qui s'appelle Der Totale Staat, semble une illustration presque naïve de cette reviviscence inquiétante des titans échappés du Tartare. Et pour aussi montrer que la peinture dite d'avant-garde n'a pas échappé à cette emprise, à cet impératif iconographique de l'image du géant. Je terminerai avec ces deux images très étonnantes, l'une de Salvador Dali, Prémonition de la guerre civile, qui, là aussi, sur le fond d'un paysage désolé, dresse la figure menaçante, terrifiante d'un monstre aux membres à la fois démesurés et désarticulés. Et je finis par ne plus savoir. Plus étonnante encore peut-être, la figure de Max Ernst, l'ange du foyer. Figure gigantesque là encore, se dressant au-dessus d'une plaine désolée, figure plus que menaçante, plus qu'inquiétante. Que l'on pourrait rapprocher, là je termine ici parce que sinon ça va nous entraîner vraiment trop loin, de la figure de, là à nouveau, une autre version de Satan dans les enfers, de Satan au fond de ses enfers, dévorant comme Saturne les damnés, mais en même temps, préfiguration très frappante de la fortune qu'aurait l'image du géant cannibale et anthropophage dans la peinture des années 30 comme témoignage assez étonnant et peut-être pas encore assez bien vu de son temps. Je vous remercie. C'est un peu long, je suis désolé.
Non, mais c'est tout à fait passionnant, ce parcours que vous avez fait d'inversion maligne d'une figure bénéfique en figure de l'inhumain.
Oui.
C'est cette représentation de... On a l'impression que ce sont toutes les formes de l'inhumain qui passent par ce programme iconographique. Il y a la ville, il y a la machine,
oui.
La guerre, l'État.
L'État, oui.
Toutes ces formes modernes, même avant la Révolution française, puisque c'est Léviathan.
C'est déjà l'époque du Léviathan de Hobbes, oui.
Et derrière ce programme. L'image de ce Mussolini du référendum de 1934 est extraordinaire.
C'est avec les membres de ses propres sujets, de ses propres concitoyens.
C'est la terreur.
Oui.
Avec toutes ces formes qui sont représentées dans ce colosse.
Ce qui est frappant et peut-être totalement illicite au regard d'une histoire de l'art canonique et raisonnable, c'est de rapprocher des images tellement éloignées dans le temps que leurs contenus ne peuvent pas coïncider. Il n'est pas permis qu'on fasse coïncider leurs contenus. Comment est-ce qu'on ose, si l'on est sérieux une seconde, rapprocher la figure du Satan au fond de son enfer du Campo Santo à Venise, même si c'est un géant et même s'il est cannibale et anthropophage, de la figure du Staline dessiné par Koubin, dévorant ses propres sujets. Prenant une envergure, enfin un empan aussi vaste qu'une espèce d'appétit de goinfre anthropophage, en effet, je n'ai pas pu fonder, si vous voulez, plus profondément, fonder le. Certains de ces rapprochements, mais le fait est que l'image de Saturne comparée à Satan, c'est-à-dire du dieu du Chronos antique comparé à la divinité monstrueuse étant chrétien, est fondée dès le XVe siècle, s'appuie sur des innombrables études et images, et de la même façon, on pourrait montrer que cette figure se retrouvera ensuite délibérément, en toute connaissance de cause, utilisée par les artistes pour figurer, préfigurer Staline d'un côté ou Hitler de l'autre, comme j'espère vous l'avoir simplement montré en faisant défiler des images. Mm-hmm. Il est bien évident qu'il faudrait fonder beaucoup plus sérieusement cela que simplement faire défiler des images, si saisissantes soient-elles a priori.
Pour passer de l'enfer, enfin il y a ça dans le Campo Santo, c'est représentation.
C'est l'enfer, oui.
C'est l'enfer qui est derrière, représentation du monde de la terreur moderne.
C'est ça, tout à fait.
Ça ne vous choque pas. Ça ne me choque pas absolument. On pourrait articuler beaucoup,
oui.
Mais on pense bien. Enfin, moi, je pensais en vous écoutant. À Joseph de Maistre et à ces sortes de carrefour de ces figurations, de ce qui devient un programme iconographique.
Tout à fait.
Et à cette inversion du monde autour de la Révolution.
Mais je crois qu'il eût été périlleux de citer Joseph de Maistre.
Comment ?
Il eût été sans doute assez périlleux de citer Joseph de Maistre.
Pourquoi ?
Parce que c'est encore une lecture qui peut encore faire peur aujourd'hui.
Ah bon.
Simplement, je ne dis pas plus que cela.
Oui.
Il serait plus facile de citer, à propos de terreur, de citer Les dieux ont soif d'Anatole France. Ça passerait mieux. Ça serait plus...
Et puis, alors, il y a cette image, parce que j'avais un jour travaillé sur cette image de la... J'ai écrit quelque chose sur l'image de la fourmilière, qui est présente, qui monte dans les représentations littéraires vers ce moment-là. Elle est présente chez Joseph de Maistre. La fourmilière humaine. C'est l'image de la ville et du monde moderne comme fourmilière que vous avez retrouvée dans beaucoup de ces représentations.
Dès la première, dès la peinture de Georges Gross représentant Hitler mélancoliquement prostré et reposant sur un monceau de petits squelettes qui semblent encore animés, grouillés d'une vie pas tout à fait éteinte, comme les restes d'une fourmilière termitière, évidemment a fortiori chez dans le Léviathan de Hobbes où l'individu existe presque comme citation d'une cellule primitive démultipliée, remultipliée à l'infini, pour constituer le corps du monstre, Léviathan.
Enfin, vous nous avez montré, pour finir, avec les quelques dernières images, que le témoignage de la peinture n'avait pas disparu complètement. Avec Dali ou Ernst, il était
oui.
Enfin, cela dit, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus représentatif de leur œuvre ni de la modernité.
Je crois qu'il est intéressant de rabattre l'imagerie surréaliste, lorsque c'est possible, sur un contenu historique extrêmement précis, sur une idéologie extrêmement précise, ce qui est le cas chez Dali face à la guerre, face au franquisme, ce qui est aussi le cas, plus encore le cas chez Max Ernst, face aux horreurs. Ceci dit, ce qui est très étonnant, c'est que la peinture comme témoignage de son époque, comme la peinture comme habitée par un impératif iconographique, allant délibérément jusqu'à l'allégorie, au symbole, parfois très naïf d'ailleurs, une naïveté insurmontable, ou plutôt trouvée. Cet impératif iconographique existe essentiellement dans la peinture italienne et germanique. Oui. On aurait beaucoup de mal à la trouver dans la peinture française de l'époque, qui semble indifférente, ou du moins aveugle, à ce qui est en train d'apparaître, ce qui est en train de se passer sous ses yeux, et qu'elle ne veut pas voir. La peinture de ces années-là, des années 30, c'est Matisse et son fauteuil, c'est les métaphores qu'il utilise pour désigner son art, comme dans un bon fauteuil. C'est la peinture de Pierre Bonnard, dehors de tout jugement de valeur. J'ai un immense amour pour Bonnard, mais on n'est pas dans le même monde. C'est Maurice Denis, si vous voulez. On n'est pas du tout dans cette volonté d'utiliser les armes de la représentation pour dénoncer quelque chose qui est en train d'arriver, et pour essayer de lutter contre cette violence, cette terreur qui est en train de... La France reste...
Ou pour préparer.
Ou pour préparer aussi, bien sûr.
Oui, la France de la Troisième République, comme de l'étrange défaite.
Dans la France de l'étrange défaite, c'est exactement cela. C'est cela.
Quand on voit ces images.
Tout à fait ça, oui. De cécité élective.
Oui, l'absence de représentation polémique... cette terreur en train de monter. On doit malheureusement se séparer parce qu'on pourrait parler longtemps. C'était très bien.
Merci à vous.